RCF.
Jésus, un fouet à la main, qui opère un grand ménage sur l'esplanade du Temple de Jérusalem. La scène que nous relate ce dimanche l'Évangile de Jean n'a pas pu passer inaperçue. Nous y voyons un homme qui s'engage tout entier pour bouleverser les habitudes et pour interroger le train-train religieux de son époque avec son lot de rituels et de sacrifices. La sainte colère de Jésus vient surtout nous apprendre que la relation à Dieu ne se monnaie pas, que sa présence est gratuite là où nous sommes. Et Jésus ira encore plus loin en affirmant que lui-même est la maison où le Père est présent, que ce temple intérieur est indestructible, nous invitant lui-même à l'y retrouver. Pour commenter cet évangile, je reçois Patrick Laudet. Bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes diacre permanent dans le diocèse de Lyon. Nous commençons par écouter la parole au chapitre 2 chez Jean, verset 13 à 15.
Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom, à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme.
Patrick Laudet, un mot sur le contexte. Nous sommes ici au début de l'Évangile de Jean.
Oui, on est au début, chapitre 2. Il vient de se passer le miracle de Cana. Et d'ailleurs, cet épisode dit des marchands du temple, on le trouve dans les 4 évangiles. Mais dans les 3 synoptiques, il est mis au moment de la Pâque finale de Jésus. Et chez Jean, il est mis au tout début. Alors, les exégètes, évidemment, se sont interrogés pour savoir quelle était la bonne datation. Est-ce que la datation chez Jean, elle est théologique, au fond, pour inscrire dès le début de sa vie publique la perspective de la croix et du nouveau temple qui sera le don de sa vie. Peu importe, bon, je crois que maintenant, on est un peu revenu à l'idée que c'était peut-être effectivement au début de sa vie publique. Peu importe, je crois que ça nous fait signe que finalement tout l'enseignement de Jésus est comme encadré par cet épisode, du coup qui est beaucoup moins anecdotique qu'il n'y paraît, parce qu'au fond il doit s'y dire des choses très importantes pour que chez les uns et chez les autres on le mette au début et à la fin de l'évangile.
On reviendra bien sûr sur cet évangile verset après verset, mais on peut dire d'une manière générale que là on a une scène un peu grandiose, étonnante.
Bah, très étonnante, parce que c'est vrai qu'on pourrait installer l'idée d'un Jésus un peu peace and love, un peu kitsch, un peu doucereux, un peu gentillet, quoi, finalement. Et là, on assiste, hein, il faut bien regarder les mots, à une sorte de sainte colère, vous l'avez dit, du Christ qui, finalement, ne supporte pas de voir que ce parvis des gentils est encombré, devient un lieu de commerce et de trafic, et d'une certaine manière, il procède à un grand nettoyage du lieu pour peut-être autre chose, quoi.
Relisons avec vous l'Évangile. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Jésus va vivre la fête de Pâques comme tous ses, ses amis, ses concitoyens, en tout cas ceux qui pratiquent la religion.
Ben oui, c'est l'usage. Un juif monte à Jérusalem. Alors on monte au sens très très littéral, puisque la mer de Galilée, vous le savez, est à moins de 100 mètres au-dessous de la mer et Jérusalem est à 700 et quelques. Donc on monte vraiment littéralement. Et puis à chaque fois, c'est un peu une montée intérieure vers ce moment de la célébration de la Pâque à laquelle évidemment Jésus participe. Et puis le temple n'est pas un lieu inconnu à Jésus. D'abord parce que quand il était tout bébé, son père Joseph l'y a présenté. Et d'ailleurs, c'est intéressant de se souvenir, et Jésus le sait bien dans le fond de son cœur, que Joseph a dû acheter des colombes, et il a dû avoir recours aux changeurs, et il a bien fallu qu'il entre dans cet usage, ce négoce du temple. Et puis, à 12 ans, il discute avec les marchands du temple, parce que c'était aussi un lieu où on pouvait discuter. Enfin, il faut imaginer ce temple comme le lieu d'un culte à l'oriental où il se passe plein de choses. Et Jésus est un familier du temple, mais il approche du terme de la révélation, au fond, de qui il est. Et sans doute, y a-t-il quelque chose qui est mûr là pour que, à travers ce qu'il va engager, c'est ce geste au fond un peu provocateur, il dise quelque chose de lui.
Il va fêter la Pâque. Rappelez-nous rapidement de quoi est-il question, la fête de Pâque pour les Juifs ?
Les Juifs commémorent la libération d'Égypte chaque année à la Pâque. Et évidemment, la libération d'Égypte, d'une certaine manière, au fond, le Nouveau Testament va l'assumer et l'accomplir pour montrer que l'ultime et définitive libération n'est pas simplement celle de l'esclavage d'Égypte que commémore la Pâque juive chaque année, mais la libération de cet autre bien plus terrible esclavage qu'est la condition du péché, de la mort. Et c'est exactement ce qui est en jeu ici. Détruisez ce temple et je le rebâtirai, c'est-à-dire au fond, la promesse de la vie éternelle.
Patrick Claudet, regardons avec vous cet évangile, continuons à le lire. Dans le temple, Jésus trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Alors il est question du temple de Jérusalem. J'aimerais déjà, pour qu'on comprenne un peu de quoi il s'agit, que vous rappeliez ce qu'est ce temple. Il y a différents emplacements, il y a le sanctuaire. C'est quoi ce temple exactement ?
Alors, d'abord, il y a eu trois temples dans l'histoire juive. Le premier temple, magnifiquement construit par Salomon, David en portait la nécessité. Il sentait que lui était dans un palais, que l'arche était sous une tente et qu'il fallait donner à Dieu un lieu digne. Donc, le premier temple de Salomon a été édifié pratiquement 10 siècles avant Jésus-Christ. Ensuite, il y a eu un deuxième temple érigé au retour de la captivité de Babylone et terminé aux alentours des années 515. Et puis ce temple-là, le temple de Jésus, c'est celui qu'on appelle parfois le troisième temple, le temple d'Hérode, qui est une sorte d'extension massive du deuxième temple et dont la construction était commencée à peu près 20 avant Jésus-Christ. Donc dans les années où on a notre épisode, ça fait à peu près une quarantaine d'années que les travaux sont en cours, déjà bien avancés. Et le temple, c'est plusieurs lieux. C'est le Saint des Saints auquel seul le grand prêtre accède. Il y a des différentes étapes.
C'est le lieu de la présence, le Saint des Saints ?
Le Saint des Saints, c'est le lieu de la présence, de la Shekina, donc qui est réservé d'une certaine manière, seul le grand prêtre y pénètre occasionnellement. Et puis évidemment, tout en amont de ces différents lieux, il y a différents parvis, et notamment le parvis des gentils.
Alors c'est quoi ce parvis des gentils ?
C'est une sorte de lieu où on accueille les non-juifs, les craignants Dieu, les païens, de manière à ce qu'on puisse quand même trouver, et c'est très beau d'ailleurs, c'était repris par les catholiques, par le pape qui appelait à créer aussi un parvis des gentils, un lieu d'échange, de dialogue avec ceux qui ne sont pas directement juifs. Et c'est sans doute dans ce parvis des gentils qu'il y avait ces marchands de bœufs, de brebis, de colombes, de changeurs, parce qu'il fallait pouvoir acheter ces animaux. On ne pouvait pas dans le temple utiliser la monnaie romaine parce qu'elle était à l'effigie de l'empereur. Et donc c'était une monnaie idolâtrique. Donc il fallait convertir cette monnaie romaine en monnaie ad hoc pour pouvoir, dans l'enceinte du temple, acheter ce dont on avait besoin. Et un peu c'est toute cette ambiance un peu d'un lieu de culte à l'oriental qui est là.
Et alors, le temple de Jérusalem était à la fois un lieu de culte, mais aussi de sacrifice.
Un lieu de sacrifice, oui.
C'est-à-dire, rappelez-nous la logique, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une logique qui s'inscrit dans l'Alliance depuis le début.
Oui, alors elle est évidemment très présente, parce que Dieu procède par étapes, donc d'une certaine manière, au fond, sacrifier une partie de ses récoltes à Dieu, c'est d'une manière, se rappeler qu'on n'est pas maître de tout, donc c'est déjà une première étape, mais peu à peu, d'une certaine manière, au fond, la nouvelle Alliance va lever le sacrifice. Et au fond, ce qui se passe aussi dans cet épisode, c'est qu'en déblayant déblayant d'une certaine manière tous ces animaux du temple, Jésus met fin au régime du sacrifice parce que lui va d'une certaine manière prendre sur lui l'unique sacrifice et il n'y aura plus pour un chrétien d'autres sacrifices que le don de sa vie, que l'ouverture de son cœur à Dieu.
Alors là, vous avancez déjà, mais je reviens sur les bœufs, les brebis, les colombes. Il y a plusieurs sortes visiblement d'offrandes. On dit que les plus pauvres, justement, ceux qui n'avaient peu de moyens, offraient des colombes.
C'est ça. Alors c'est à la fois très très bien organisé. C'est pour ça que le pauvre Joseph, qui n'avait pas beaucoup de revenus, il s'est contenté pour la présentation de son premier-né de colombes. Mais vous voyez bien qu'au fond, là, il y a le mot qui nous le dit dans le temple. Il trouva installé. Je trouve le mot est une belle traduction parce que il s'est installé tout un régime, une affaire de commerce, de fric. Et c'est au fond ça qui finalement nous détourne de la relation libre de tout ce trafic finalement. Et donc, on voit bien qu'il y a un encombrement qui fait au fond un jure à Dieu.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Patrick Laudet, poursuivons la lecture de l'évangile de ce dimanche. Je rappelle que c'est chez Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Jésus vient d'arriver dans le temple de Jérusalem. Il fit un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Quelle scène ! Jésus est hors de lui.
Oui, alors en même temps, bon, il faut pas non plus exagérer, c'est-à-dire que il donne du fouet, pas de l'épée. Enfin, il n'est pas en train d'égorger qui que ce soit. Et puis, moi, je trouve ça très, très, très émouvant. Il fit un fouet avec des cordes. Ça devait pas être bien méchant ce fouet. Et au fond, c'est moins un outil de torsionnaire qu'un outil de ménagère. Il a dû bricoler avec 2-3 cordes un fouet. On imagine, ça devait pas être tout à fait tuméfiant que ce fouet-là. C'est simplement un outil pour faire un peu le ménage, quoi. Et donc, bien sûr qu'on pourrait dire que c'est une forme de violence. Mais quand même, c'est quelque chose qui est surtout destiné non pas à blesser qui que ce soit. D'ailleurs, si on regarde de près, il ne s'en prend qu'aux marchands et pas aux acquéreurs. Et puis, il s'en prend surtout à toute cette espèce d'encombrement des bêtes et des tas de pièces qui sont là. Et le fouet lui sert à ça, lui sert à faire de la place, lui sert à faire du vide. Ça ne lui sert pas à blesser qui que ce soit, mais à finalement désencombrer.
Il y a une parole en plus. « Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Donc, il y a aussi l'expression par la parole du fond de son cœur.
C'est ça, c'est-à-dire que ça n'est pas sous l'effet de la colère incontrôlée qu'il se met à, on dirait aujourd'hui de façon un peu, à péter un plomb, pas du tout. Mais au fond, la parole est là pour dire que ce qu'il fait est ordonné au sens de ce qu'il fait. Et évidemment, dans cette parole, « cessez de faire de la maison de mon père », là, il y a quelque chose quand même qui est assez… c'est la maison de mon père. Donc, on sent que c'est pas un homme qui vient là simplement pour remettre un peu d'ordre dans un lieu commun collectif. Là, il y a quelque chose dans une relation intime que Jésus a avec le temple, se joue quelque chose de tout à fait essentiel.
Et la maison de son père fait peut-être allusion alors à un autre évangile, quand il a 12 ans et qu'il va dans le temple et qu'il dit, voilà, les affaires de mon père sont importantes et je dois m'y donner.
Et donc, il faut entendre la maison de mon père, il faut essayer d'entrer dans ce que j'aurais aimé être là pour regarder. Quand il venait au temple, comment il regardait ce temple qui est la maison de son père et qui est au fond sa maison, mais avec la grande délicatesse qui est la sienne, il la réserve à son père et il veut lui redonner la plénitude de sa vocation originelle, alors qu'elle sait, voilà, s'y sont installés, c'est le mot qu'on a commenté, qu'ils s'y sont installés toutes sortes de commerces et de trafics qui n'ont plus beaucoup à voir avec ce que le cœur profond de Dieu espère du cœur de l'homme.
Jean poursuit, ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment ». Extrait d'un psaume, le psaume 69.
Le psaume 69, voilà. Et donc, les disciples qui sont autour de lui, alors on peut imaginer d'ailleurs qu'il y avait des zélotes peut-être parmi ses disciples, une sensibilité que ça y est, ça commence, le Christ révolutionnaire va nous bouger un peu tout ça, il commence là, ça y est. Et peut-être,
les zélotes voulaient chasser les Romains.
Et les zélotes voulaient chasser l'occupant romain, et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que dans notre traduction aujourd'hui, l'amour de ta maison fera mon tourment, mais parfois il est traduit le zèle de ta maison. Donc d'une certaine manière, Jésus tout à coup se montre un peu zélé et peut-être un peu zélote et tout le monde, certains peuvent peut-être se dire, les fameux disciples qui regardent ça, disent, ah, ils se souviennent du psaume 69 et peut-être ça va prendre, le zèle va prendre chair, là, le zèle va prendre forme et enfin on va voir un Jésus qui va commencer à entrer dans l'offensive. Et on va voir après que ça n'est pas du tout contre le temple qu'il en a, c'est d'autre chose qu'il s'agit. D'une certaine manière, au fond, les zélotes en seront un peu pour leur compte, parce qu'on a du mal à faire de cet épisode, certes un peu violent par certains côtés, le signe d'un Christ véritablement révolutionnaire.
Patrick Claudet, vous évoquiez le nom qui est parfois associé à cet évangile, la purification du temple.
Oui.
Sur le plan symbolique, on peut dire que justement Jésus, par sa geste-là, vient purifier la maison du Père qui normalement ne devrait pas être une maison de trafic, c'est-à-dire remettre les choses en ordre, on peut dire ça ?
Oui, sans tomber non plus dans l'idée que, au fond, il y aurait une espèce d'agacement dévot qui voudrait qu'il n'y ait rien et que tout le monde soit dans une dévotion recueillie, parce que Jésus est un oriental, donc il sait bien que la relation à Dieu, elle est vivante. Hein, donc que le temple soit un lieu de vie, ça n'est pas le problème. Mais au fond, c'est ce qui s'est perdu d'essentiel. Et la purification du temple, c'est à la fois déblayer de tout ce qui encombre le temple, mais c'est aussi purifier notre relation au temple. C'est-à-dire, qu'est-ce que le temple et notre relation à Dieu, finalement, et faire en sorte que notre relation à Dieu ne passe pas par la transaction, l'argent, la négociation, tout ce qui finalement vient parasiter quelque chose de plus essentiel.
Dans l'épisode précédent, aux noces de Cana, Jésus utilisait des jarres qui servaient à la purification.
Oui.
Et il va mettre du vin nouveau dans ces jarres. Et alors, l'épisode là est complètement différent, mais on peut rapprocher quand même cette idée-là. Qu'il y a un ordre nouveau, que les choses ne disparaissent pas totalement, mais qu'il réoriente la manière dont on use des choses.
C'est ça, oui, à condition de bien entendre le mot purification, non pas comme une sorte d'idéal de pureté.
Alors, c'est quoi la purification ?
Finalement, faire reculer l'idolâtrie, hein. C'est-à-dire là, c'est revenir à l'essentiel, hein. Donc c'est retrouver le cœur premier des choses, hein. C'est moins un idéal de pureté absolue auquel il faudrait conformer le temple, mais retrouver quelque chose d'essentiel à la relation à Dieu, purifier la relation à Dieu de tout ce qui vient par idolâtrie s'interposer entre lui et nous.
Enfin une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Patrick Claudet, l'attitude de Jésus va susciter des réactions, et c'est normal, on s'en doute.
C'est normal.
Alors, pas des marchands qui ont été chassés, mais plus des juifs. On nous dit les juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ? Des juifs, le terme est vague, c'est les autorités juives.
Oui, c'est les autorités juives, d'ailleurs ceux qui ont finalement un peu d'année en année installé, consenti à ce que le temple devienne un peu ce lieu de commerce et de trafic. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, cette réaction des autorités, d'une certaine manière juive, nous aide à comprendre que ce qu'il fait n'est pas si scandaleux que ça en termes de violence. Parce qu'on lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu es incroyablement... Ils ont peut-être mauvaise conscience et du coup, ils sentent bien que vu ce qu'est le temple, ce qu'il devrait être, ce qu'il fait n'est pas si inconvenant que ça. Mais la seule chose qu'ils lui demandent, c'est au nom de quoi es-tu vraiment en droit ? Es-tu celui qui peut exiger que le temple retrouve quelque chose qu'il a perdu dans cette installation de tout ce commerce ?
Et il parle de signes. Alors, quel signe peux-tu nous donner ? Le signe, c'est quoi exactement ? C'est une action éclatante ?
Oui, c'est-à-dire au nom de quoi fais-tu ça, quoi ? Qu'est-ce qui te permet ? Qu'est-ce qui te donne le droit de faire ça ? Et qui es-tu pour faire ça, quoi ? La question est beaucoup plus là.
Jésus leur répond « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le relèverai ». Jésus ne dit pas « Détruisez le temple », mais le sanctuaire. Donc il fait allusion là au Saint des Saints, vous l'avez expliqué, c'est l'endroit de la Shekinah, l'endroit de la présence.
Oui, alors... Cette parole, elle est très énigmatique sur le moment, parce que elle peut passer pour une sorte de fanfaronnade. Détruisez ce sanctuaire et vous allez voir ce que vous allez voir en 3 jours. Je le relèverai. Et c'est un peu à ce niveau-là, d'ailleurs, que ces interlocuteurs l'entendent. Alors qu'en fait, Jésus est en train de leur donner une parole prophétique, eschatologique. Alors, elle joue à plusieurs niveaux. Et là, il y a une richesse incroyable, parce que quand il dit détruisez ce sanctuaire, eh bien, c'est à la fois la destruction du temple qui arrivera un jour, parce que dans l'histoire des hommes, on le sait, en 70, les Romains détruiront le temple. Mais bien sûr que lui, il est tout à ce qu'il fait et ce pourquoi il est là, et détruisez ce sanctuaire. Il commence à préparer l'identification de sa personne mystérieuse, comme Christ, au temple lui-même. Et il sait qu'on le détruira. Et je le relèverai en 3 jours, c'est bien sûr la résurrection.
Oui, parce qu'il faut souligner que le verbe relever est un verbe qui exprime à la fois la reconstruction de l'édifice, mais aussi la résurrection.
Voilà, voilà. Et du coup, tous ces mots jouent un peu à double sens.
Ça, c'est une spécificité de Jean, qui a souvent
deux
niveaux de lecture.
Voilà, et en même temps, c'est tellement une tradition de l'Ancien Testament, de la langue hébraïque, de faire entendre plusieurs choses à la fois. Et comme Jésus, alors surtout si on est chez Jean au début de la vie publique, il commence d'une certaine manière, et il est un peu pédagogue de sa perspective eschatologique. Donc là, il donne au fond la clé, mais en laissant peu à peu à ceux qui vont être ses disciples et ses interlocuteurs d'entrer dans l'intelligence de ce qu'il dit.
Et on n'y entre pas tout de suite, puisque le texte nous dit
on n'y entre pas.
Ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela quand il se réveilla d'entre les morts. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Donc on est dans le malentendu à l'instant T, présent, et il faut du temps pour comprendre.
Il faut du temps.
Que ce soit les autorités juives ou les disciples.
Il faut du temps. Et c'est pour ça que c'est intéressant que ce soit dans différents endroits dans l'évangile, jusque qu'on soit à la fin, quelques jours avant sa Pâque ou au début de sa vie publique, il y a des choses que Jésus nous dit et qu'on ne comprend pas tout de suite, et que les disciples, les pauvres disciples, comme nous d'ailleurs, eh bien, ils ne comprennent pas grand-chose, et il faut parfois du temps, il faut du recul, et les choses s'éclairent rétrospectivement. Et bien sûr, cette phrase, alors elle est poignante, cette phrase, parce que vous vous souvenez que dans le procès de Jésus, ça sera un des chefs de l'accusation. Et cet homme a dit qu'il allait détruire le temple. Alors, il a d'ailleurs jamais dit, quand on compare les textes, il a jamais dit « je vais détruire le temple ». Il a dit « c'est vous qui le détruirez ». Et puis, c'est aussi une autre occasion de blessure, parce que quand il est au moment de sa passion, quand il est en croix, on lui dit « mais fais le malin, en gros, hein. Toi qui as voulu détruire le temple en 3 jours, eh bien, montre-nous un peu, sauve-toi ». Et donc, c'est d'une terrible ironie mordante. Et donc, on voit comment cette parole, cette destruction du temple pour laquelle il n'est rien, il la prend contre lui, il la prend et il l'assume, et il en sera au fond lui-même la victime.
Mais il faut rappeler que le temple a vraiment été détruit en 70 après Jésus-Christ.
En 70, et d'ailleurs l'évangile de Jean étant sans doute postérieur à la destruction du temple, quand Jean écrit ça, il sait bien à quel point, bien sûr c'est le temple du Christ qui était détruit par sa mise en croix, mais c'est vrai à tous les plans, puisque le temple lui-même, qui était tellement monumental, n'a pas échappé à une destruction historique humaine, romaine, et à quel point effectivement les paroles de Jésus sont des paroles de vérité.
Et c'est là où on voit quand même la construction du récit évangélique qui se sert d'événements historiques, donc la destruction du temple, avec tout un tissage symbolique et théologique autour aussi. C'est une reconstruction.
C'est une reconstruction, mais il est fort à penser que cette parole a été dite. Hein. On lui a suffisamment reproché, soit pour en faire un chef d'accusation au procès, soit pour la lui lancer de façon ironique à la figure en pleine croix. Et donc, elle a dû marquer, mais personne ne pouvait vraiment la comprendre. Elle a dû passer pour une sorte de fanfaronnade. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, avant le mystère de la croix, d'accepter cette destruction du temple et une reconstruction en 3 jours?
Lisons avec vous, Patrick Claudet, la fin de l'Évangile. « Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. » Qu'est-ce que vous diriez sur cette finale?
Là, il y a une résolution presque un peu mélancolique. On dit, voilà, le mystère de la croix commence. Quoi. La croix commence avant la croix. Il a fait les frais d'un premier malentendu. Il sait que dans le cœur de l'homme, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Et ma foi, il est là pour ça, d'une certaine manière. Donc, ça ne peut pas l'affoler. Il le connaît. Donc, d'une certaine manière, au fond, rien ne peut au fond le surprendre ni le dérouter. Et c'est une résolution de l'épisode qui est assez belle. Il y en a une autre que j'aime beaucoup chez Matthieu, dont il faut se souvenir, c'est que dès qu'il a fait le vide, dès qu'il a un peu débrouillé, déblayer avec son petit fouet pour faire de la place. Immédiatement, comme c'était une sorte de cours des miracles, des aveugles et des boiteux viennent vers lui et il guérit. Et autrement dit, c'est magnifique parce que c'est lui qui devient un changeur. Il déblaye les changeurs de monnaie et il change le trafic pour en faire de la bonté finalement. Parce que immédiatement, dans cet espace des gentils, en lieu et place des changeurs et des animaux du sacrifice, par ce qu'il est, il va immédiatement, on a ça dans Matthieu, c'est la résolution des marchands du temple dans Matthieu, il a converti tout ça en bonté et il guérit
gratuitement.
Et pour nous dire, ben voilà, faites les changes. C'est-à-dire, au fond, le vrai changeur, c'est lui. C'est changer finalement l'installation de nos encombrements, de nos petits trafics pour quelque chose de l'ordre de la bonté.
Patrick Claudet, vous avez commencé à nous dire que la bonne nouvelle, c'est que Jésus va justement changer nos trafics gratuitement en bonté. Quel est l'enseignement primordial pour nous aujourd'hui de cet évangile ?
Ah ben, moi, il y a trois choses que je trouve admirables pour aujourd'hui. C'est d'abord, il faut se méfier du monumental. Il devait être magnifique, le temple.
Il était, il paraît, extraordinaire.
Mais il y a une forme d'idolâtrie qu'on peut mettre, y compris dans nos monuments. Et il veut, au fond, purifier notre amour du monumental. Dieu n'est pas forcément dans le monumental. Et ce qu'on perd, d'une certaine manière, en colonnade, en belle architecture, etc., au fond, on va le gagner en profondeur de l'amour. Et je trouve c'est magnifique. On a vu l'épisode douloureux de l'incendie de Notre-Dame. On aime tous Notre-Dame, mais c'était magnifique de voir que le Monseigneur Opetit, l'archevêque, a dit, mais c'est un magnifique écrin, mais tout ce bel écrin pour une chose essentielle, encore plus importante que la beauté du monument, c'est une miette de pain et quelques gouttes de vin. Et certains ont trouvé que c'était un peu décevant que l'archevêque de Paris parle comme ça, mais il ne confond pas l'écrin et les joyaux de la couronne. Donc le monumental, c'est magnifique, mais il y a peut-être une sorte d'idolâtrie païenne à vénérer les temples, et donc c'est, d'une certaine manière, cet épisode nous libère de ça. La deuxième chose, très vite, c'est que on ne comprend bien les choses qu'après. Et pour nous, ça fait sens, quoi. Des choses qu'on ne comprend pas tout de suite.
C'est ce que disent les disciples, qu'ils ont compris après.
La Pâque était au travail déjà à ce moment-là. Même si c'est chez Jean au début de sa vie publique, la Pâque est déjà au travail, mais personne ne comprend rien. Et après, on se dit, ah, mais c'était donc ça. Et c'est un signe d'espérance. C'est-à-dire, ce qu'on ne comprend pas toujours dans nos vies immédiatement trouvera peut-être sa pleine intelligence rétrospectivement. Et puis surtout, moi, je trouve la plus belle chose pour cet évangile, c'est au fond cette parole du Christ, vous pouvez bien tout détruire, et vous le ferez, les hommes, les Romains, vous pouvez bien tout détruire, il ne restera que des ruines, et c'est vrai de lui qui va être mis à mort, mais c'est vrai du temple dont il ne restera que le mur des lamentations, mais de vos ruines, moi, je ferai de la vie. Tout peut être détruit, mais rien n'est jamais perdu. Et d'une certaine manière, la parole qu'il nous dit dans cet épisode des marchands du temple, elle est une pépite d'espérance incroyable.
Vous avez beaucoup de contemporains aujourd'hui qui disent « Moi, je m'intéresse aux évangiles, cette parole me nourrit, mais j'ai pas besoin d'aller à l'église. En gros, j'ai pas besoin d'aller au temple. » Et cet évangile, pourquoi pas, peut abonder dans leur sens. À quoi ça sert d'aller au temple ? Est-ce que c'est pas finalement le plus important
Il faut pas aller au temple, il faut aller rencontrer Jésus dans l'Eucharistie. C'est-à-dire que c'est plus important. Une Eucharistie dans un endroit tout à fait modeste a autant d'intensité que dans la plus belle des cathédrales de France. Et donc il faut aimer nos cathédrales et on est attaché, c'est magnifique, à nos grandes cathédrales et à Notre-Dame de Paris. Mais comme l'a dit Monseigneur Opetit, au fond tout ça, c'est pour abriter une goutte de vin et une miette de pain. Donc il faut aller dans nos temples et dans nos églises, moins pour la beauté des églises, parce que ça, on peut y aller pour des concerts ou pour visiter, mais ce qui est important, c'est ce qu'elles accueillent, c'est-à-dire la merveilleuse rencontre du moindre d'entre nous avec le Dieu vivant dans le pain et le vin.
Ce temple aussi, ça peut être notre propre cœur, habité par une certaine forme de marchandage parfois avec Dieu. Et Jésus viendrait balayer aussi notre propre manière d'être au monde et à lui-même.
Ben oui, c'est pour ça qu'un petit coup de fouet ou un petit coup de balai, ça fait pas de mal au fond du cœur pour se désencombrer. C'est un travail, parce que nous mettre au large finalement, faire de la place, faire du vide, faire du spacieux finalement. C'est ce qu'il fait dans le temple, il remet du vide, de la place.
Mais pourquoi est-ce si difficile de croire en la gratuité du don de Dieu? Parce que souvent, on marchande avec Dieu.
Eh ben oui, c'est donnant-donnant, quoi. C'est une logique humaine qui est vieille comme le monde et c'est tellement pour nous incroyablement bouleversant d'être aimé d'un amour gratuit, qu'on a du mal à entrer dans cette économie, mais au fond, tout le travail de Jésus, c'est de venir nous rendre sensibles à une autre économie, qui est l'économie du royaume, l'économie de la grâce, qui n'a rien à voir avec des affaires de pièces et de taux de change et de commerce, exactement.
Merci à vous, Patrick Claudel. L'évangile que nous avons lu est à retrouver chez Jean, chapitre 2, versets 13 à 25. Merci à Antoine Picot à la technique.